I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, je connais aucune meuf 6-7 qui fait du drag queen, ou alors c'est vraiment des meufs qui sont, enfin, qui ont pensé qu'elles étaient 6-7, mais elles le sont plus. Et ça a été... Non mais vraiment, personne n'arrive là par hasard. Pour rentrer dans ce milieu-là, c'est que t'en as besoin, je pense aussi. Et du coup, je connais beaucoup de meufs qui maintenant sont plus cis ou plus hétéro, qui ont commencé. Et ça a vraiment aidé beaucoup de gens d'être une meuf qui fait du drag queen à comprendre. Parce qu'on a tellement d'injonctions quand t'es une meuf qu'en fait, dans le jouet, de se les réapproprier, bah au final, ça te rend beaucoup plus libre.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime. Afin de mieux se l'approprier.
Hors drag, je m'appelle Lola, j'ai 21 ans, je suis étudiante en biologie et en drag, je m'appelle Morphine Blaze, je fais du drag depuis 3 ans et voilà.
Est-ce que tu veux bien parler de ton enfance ?
Alors, mon enfance, j'étais extrêmement bizarre et je parlais à personne et j'étais extrêmement antisociale. Enfin, on n'avait pas trop d'amis et mes parents non plus. Et du coup, on était vraiment toujours avec eux et on faisait vraiment rien. Enfin, vraiment, on voyait personne d'autre, on était toujours ensemble, c'était hyper bizarre. Et quand j'étais petite, j'étais très très bonne élève. Du coup, je faisais ma vie à genre réviser et faire des devoirs, lire des livres. Et c'est comme ça que j'ai eu besoin de lunettes parce que je lisais les livres même la nuit, genre dans le noir. Enfin voilà, et c'est tout. Et je sais pas jusqu'à où ça s'arrête l'enfance.
Est-ce que t'avais l'impression de devenir adulte ?
Du coup, quand j'étais petite, je faisais très adulte. Quand j'étais au collège, je faisais très adulte. Je voulais même pas mettre des baskets parce que je trouvais que ça faisait trop enfant. Et après, quand j'ai commencé à être au lycée, bah, j'étais toujours l'impression d'être adulte. Et c'est quand j'ai commencé à... Enfin, j'ai cru que j'ai fait médecine, j'ai toujours l'impression d'être adulte. Et quand j'ai quitté médecine et que j'ai commencé à sortir et à me faire des potes et tout, et ben là, j'avais l'impression, du coup, de redevenir enfant. Là, j'ai commencé à genre, vraiment m'intéresser à savoir c'était quoi mes vrais goûts, etc.
T'avais l'impression que t'avais jamais cherché à être toi-même ?
Exactement. Et puis, je me suis posé vraiment plein de questions sur est-ce que c'est moi qui aime ou si est-ce que c'est... Genre, je faisais semblant d'aimer ça et j'avais vraiment aucun goût personnel. Genre, je me rendais vraiment pas compte, mais ça a vraiment changé du tout au tout. Genre, je me forçais à avoir des goûts. Et aussi, j'avais les mêmes que mes parents, parce que je me disais que c'était ça qu'il fallait faire. Et puis aussi, enfin, tout ce qui faisait enfant, j'étais là, non, mais j'aime pas du tout, quoi. Non, mais les Disney, ça pue et tout, que des trucs comme ça, genre. Et en fait, pas du tout. Et du coup, j'ai appris tous mes goûts à, genre, 18 ans.
Et justement, ce rôle que tu t'étais donné d'avoir, d'être adulte avant l'heure, est-ce que t'avais l'impression que c'était pour toi ? Pour impressionner quelqu'un ? Est-ce que c'était pour tes parents ?
Ah non, mais c'était vraiment pas pour impressionner quelqu'un. C'est juste que j'avais l'impression qu'on me donnait beaucoup de responsabilités. Et du coup, je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Et que, j'ai toujours l'impression de devoir aider tout le monde et de devoir prendre tout sur mes épaules. Et dès qu'il y a un problème, je le prenais beaucoup trop à cœur. Et je le fais maintenant encore. Genre, dès que quelqu'un a un problème, c'est comme si c'était mon problème. Et je prends tout sur mes épaules tout le temps. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités.
Et ce sens du devoir, même quand t'étais studieuse à l'école, elle venait d'où cette pression, tu penses ?
En fait, c'est vraiment parce qu'on me donnait pas la pression. Je pense que de base, j'étais bonne à l'école parce que le système scolaire, il me correspondait. Enfin, c'était juste tout bête. Et après, comme on disait toujours, ah, mais t'es très intelligente, t'es très forte et tout ça, et j'étais là, non, je suis obligée de continuer à être très forte et très intelligente, sinon ils vont être déçus et tout. J'avais 40 heures de cours en terminale, je faisais genre option latin, grec ancien, enfin, genre, voilà. C'était un peu too much. J'avais bac S scientifique, alors que moi, en plus, la science, ça m'intéresse pas forcément super beaucoup. Enfin, mais comme il fallait faire ça, c'est intéressant. Après, je dis que j'allais faire médecine et tout. Enfin, c'était un vrai truc. Et maintenant, plus du tout.
Est-ce que même médecine, est-ce que c'était pour toi ? Est-ce que c'était pour...
Ah non, c'était vraiment pas pour moi. Genre, médecine, je voulais faire médecine parce que ça alliait tout ce qui était bien. C'est-à-dire que, genre, à la fin de tes études, normalement, t'avais un travail. Genre, c'était pas compliqué de rentrer sur le milieu du travail et de chercher, d'être au chômage et tout. Donc ça, j'étais là, ouais, ça a l'air cool. Et aussi, il y avait pas de pression pour rentrer en médecine parce que c'est la fac, donc tout le monde peut rentrer. Et aussi, il y avait, c'est presque gratuit, c'est 180 € par an, comme c'est la fac. Et du coup, j'étais là, du coup, ça veut dire que je pose vraiment problème à personne. Genre, je fais des études qui sont bien, ça veut dire qu'ils vont pas devoir me soutenir pendant longtemps. Du coup, quand je gagnerai de l'argent, je voulais gagner de l'argent, mais pas pour gagner de l'argent, juste pour pas que enfin être un problème pour mes parents, quoi. Et après, je voulais faire des études qui sont pas payantes pour justement ne pas être un problème pour mes parents. Et en plus, ça c'était pas trop compliqué après, parce que quand tu fais médecine, t'as un chemin tout tracé, genre t'y vas, tu rentres, tu fais tes années d'études, et après t'as ton travail, et tout est très bien. Mais en fait, ça m'intéressait pas.
T'es allée droit vers médecine, sans te poser cette question de ce que toi tu voulais faire.
Ah non, vraiment pas.
Mais quand est-ce que tu t'autorisais à rêver, ado?
Ah mais jamais. Jamais. Vraiment. Je me posais même pas de questions, qu'est-ce que j'allais faire plus tard, enfin je savais même pas ce que je voulais faire plus tard. Ma vie, elle avait aucun intérêt, genre je faisais, et genre j'étais pas heureuse, j'étais pas malheureuse, je faisais juste genre exactement ce que je devais faire. Et c'était juste, et pour moi, enfin quand j'arrivais jamais à penser au futur, enfin, en fait c'est, enfin j'arrive pas à y penser maintenant, mais c'est vraiment, pour moi, enfin j'ai jamais, je me suis jamais projetée, je me projette jamais, je suis là, bon bah, juste je fais ma vie.
J'ai l'impression, en t'entendant parler, que t'avais pas de corps, que
ah non,
tout était zéro. Dans ta tête.
Ah oui. J'étais pas en train de cacher mon corps non plus, je trouvais ça, je trouvais juste ça cool, par exemple j'adorais m'habiller et faire d'avoir genre un petit style et tout, et non mais c'est, j'avais rien de, enfin vraiment rapport au corps j'avais zéro, enfin j'aimais pas du tout, moi j'ai genre hyper mal vécu la puberté en plus, donc vu que enfin moi j'ai eu une puberté très tôt, et puis c'était un peu une puberté enfin à moitié féminine à moitié masculine, enfin c'était bizarre parce que du coup j'ai appris à la puberté que j'avais des hormones masculines un peu trop et pas beaucoup d'hormones féminines, ou alors qu'il arrivait que genre une fois tous les ans ou des trucs comme ça, et du coup c'était genre super perturbant, j'avais des gros soucis hormonaux que j'ai résolus plus tard en plus, et du coup je comprenais pas ce qui se passait, en plus j'étais hyper poilue et tout ça, et genre et j'avais des épaules carrées et tout, et je comprenais pas ce qui se passait, j'aimais pas du tout, et tout le monde se moquait de moi pour ça, et j'aimais pas, et en plus avant, enfin tout le monde disait que j'étais jolie, tu vois, avant la puberté, et après tout le monde était là genre, ah elle est archi moche. Et du coup, ça m'avait trop stressée. J'étais là, non, mais en plus, j'avais qu'un seul atout. Et maintenant, j'en ai même plus. Enfin, bref. Et du coup, j'aimais pas ça. Et du coup, j'ai essayé de compenser en essayant d'avoir une sorte de style vestimentaire poussé. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, quand j'ai commencé à prendre mes hormones, je sais pas quand là, j'avais genre 13 ans, 14 ans, ça s'est à peu près amélioré. Enfin, ça s'est amélioré vu que je prenais des hormones de fille. Et du coup, genre, tout a un peu changé. Et ça allait mieux. Enfin, bref.
Mais est-ce qu'on t'a expliqué ce qui se passait,
tes non, parents ou la pas médecine? Du tout, pas du tout. Enfin, putain, mais ils ont pas expliqué à mes parents non plus. Enfin, je veux dire, en gros, ma mère, elle a le même genre de problème, sauf que c'était beaucoup, beaucoup moins exprimé. Et du coup, enfin, elle a dit, ah, juste t'as comme moi, bon, tranquille. Du coup, on allait voir le gynéco et on a regardé. Et elle était là, ah oui, bon, c'est pour l'acné. On m'a dit que c'était pour l'acné de base. Enfin, après, j'avais énormément d'acné, parce que quand des problèmes hormonaux, enfin... T'as de l'acné et des trucs comme ça. Enfin, moi, genre, ça faisait genre 6 ans ou 7 ans que j'avais de l'acné, ça faisait à faire longtemps. Et du coup, ils ont dit, bah, c'est pour l'acné, ça va changer et tout. Et puis, t'as sûrement la même chose que ta mère. Moi, j'étais là, ok, enfin, c'est juste. C'est rien, enfin, c'est juste un souci hormonal. Et en fait, j'ai appris par moi plus tard que c'était pas pour l'acné de base. Enfin, c'est des médecins qui te donnent, en fait, c'est des bloqueurs d'androgènes. Enfin, en gros, exactement les mêmes médicaments qu'elles prennent. Les femmes trans, enfin en gros, tu prends des bloqueurs d'androgènes, d'ailleurs c'est un médicament qui est très dangereux, qui donne une tumeur au cerveau, et du coup des oestrogènes, enfin des hormones de meuf entre guillemets, et ça c'est super lourd comme traitement, c'est beaucoup 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 d'oestrogènes, et les bloqueurs d'oestrogènes aussi, enfin ça rend dépressif, ça fait des gros changements de poids, donc toujours à devoir acheter des vêtements, à pas du tout à prendre conscience de son corps comment il est, parce que toujours à changer de corps justement, et puis là personne m'a expliqué, on m'a juste dit bah c'est un médicament, moi j'étais là bah c'est bien, moi je trouve que c'est très bien la médecine et tout, et moi je crois à tous les médecins et c'est très bien, et je prenais ça et ça allait à peu près mieux, sauf qu'après en fait j'ai eu beaucoup de soucis pour avoir des bons dosages, et j'avais des problèmes, je m'évanouissais en cours, enfin j'avais choisi des hémorragies et tout, enfin c'était un peu n'importe quoi, et quand même j'ai trouvé pile le bon dosage, et c'est là où on a appris que le médicament que je prenais il donnait des tumeurs au cerveau, et du coup on a essayé d'autres choses mais il y avait rien d'autre qui marchait, les autres choses ça me donnait genre des taux de cholestérol genre extrême alors que je mange même pas de viande et tout, enfin c'était n'importe quoi, et du coup là on essaye de balancer entre un truc dangereux et un truc qui me rend pas malade, enfin c'est assez bizarre, et du coup j'ai toujours pas trouvé un très bon dosage et on va voir, et je vais faire des IRM de cerveau là pour voir si ça va.
Et ces tâtonnements d'équilibre hormonaux,
ouais,
comment est-ce que ça s'est, enfin forcément ça pose question, est-ce que tes parents ou toi à ce moment là t'as commencé à douter de ce que tu prenais?
Non, en fait, mon père, on n'y avait pas trop parlé, parce qu'il était plus trop à la maison et tout, et du coup, genre, on ne parlait pas trop de ça. Et après, quand il m'a dit, mais non, moi, je suis pas trop pour que tu prennes beaucoup d'hormones, de trucs, enfin, c'est des trucs qui sont pas forcément très bons pour la santé et tout, moi, je disais, mais non, mais c'est un médicament, t'inquiète, enfin, c'est pas grave et tout. Et du coup, à chaque fois, genre, quand je le voyais, il était là, non, mais fais-moi un point, genre, de tout ce que tu prends et des effets et tout, je vais quand même être au courant et tout. Et il est vraiment, vraiment pas pour. Genre, j'ai essayé d'arrêter l'année dernière, il était trop content. Ça n'a pas marché, mais voilà. Et ma mère, elle était juste là, bah non, c'est un médicament normal, ça t'enlève tes boutons, c'est bien. Voilà. Dès que ça commençait à me faire trop grossir, elle a non, par contre, il faut changer. Mais sinon, genre, ça la dérangeait pas, elle s'est pas posée de questions. Et du coup, j'en parlais à mon père, il me dit, mais pourquoi tu prends ça? Enfin, c'est quand même bizarre et tout. Enfin, genre, pourquoi t'as des hormones masculines? En même temps, tout le monde, dans chaque personne avec son corps, a des hormones féminines, des hormones masculines, c'est entre guillemets, bien sûr, mais moi, j'en avais juste plus. Et on comprenait pas trop. Et mon père était là, oui, mais c'est vrai que quand t'es dans le ventre de ta mère, blablabla. Et moi, j'étais là, genre, quoi? Et après, il était là, oui, c'est vrai qu'à l'échographie, on pensait que t'es un garçon et tout. Moi, j'étais là, comment ça? Enfin, genre, c'est pas possible et tout. Après, il m'expliquait des trucs et j'étais là, genre, hein. Et après, j'ai fait des recherches. Et j'ai pas forcément fait des recherches, mais comme j'étais toujours en train de regarder des trucs LGBT sur YouTube, en mode, non, mais c'est pas moi, mais j'aime bien regarder. Genre, c'est oui, non, je pense qu'on était par là. C'est ça. mais du coup, je suis passée à regarder ça. Et à un moment, je suis tombée sur la chaîne d'un activiste intersexe. Et j'étais là, et enfin, je savais pas ce que c'était, hein. Et je regardais, et il s'appelle Pigeon, c'est un activiste intersexe américain. Et je regardais, et il parlait de ça, et j'étais là, Et du coup, j'étais là, mais c'est intéressant et tout. Et après, j'étais là, mais non, mais c'est pas moi, parce que j'avais regardé, là, du coup, la définition sur Internet, et c'était la définition, tu sais, médicalisante, qui disait, il faut naître avec, je sais pas quoi, enfin, tu sais, avec des critères très machin, qui sont pas du tout, enfin, accurate, en fait. Et du coup, j'étais là, non, mais du coup, c'est pas moi, enfin, ça ressemble à tout ce que j'ai vécu, mais c'est pas moi, enfin, c'est pas, je vide pas les cases qu'il y a écrit dans le règlement de je sais pas quelle santé, bref. Et du coup, j'ai quand même continué à écouter, j'ai quand même mis dans ma story, est-ce qu'il y a des gens inter qui peuvent me diriger vers des trucs, et personne répondait, tout le monde était là, non, je sais pas ce que c'est, et personne répondait. Et du coup, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai trouvé genre une personne en France qui parlait un peu de ça, et j'étais là, ok. Et après, enfin, j'ai essayé de me renseigner, et je suis tombée sur le collectif Inter et Alliés, qui est un collectif français pour les personnes intersexes et les alliés, du coup. Et ils ont un test, en gros, comme être intersexe, enfin, c'est un truc qu'on note pas dans ton carnet de santé, qu'on dit pas à tes parents. Enfin, quand on te dit c'est une opération pour autre chose alors qu'en fait non, enfin tu vois, on te dit plein de trucs que tu sais même pas, tes parents ne sont pas au courant, enfin toi du coup la majorité des personnes intersexes ne savent pas qu'elles sont intersexes. Et du coup ils ont un test en gros où ils te posent plein de questions, et à la fin ils te disent tu as 90% de chances d'être intersexe ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment des questions précises. Et moi il y avait genre 100%, enfin, et j'étais là, ah ok, bon, je me sens un peu plus légitime déjà à dire ça. Après j'ai regardé plein de témoignages, j'ai regardé des documentaires qui sont pas mal sur Arte, des trucs comme ça. Et après j'étais là, bon bah c'est ce que je suis moi, voilà. Du coup j'ai essayé de me dire, mais du coup, enfin de parler à des gens qui étaient inter, et il y a plein de personnes du coup qui sont en train de faire leur propre dosage d'hormones parce que bah, personne les aide à comprendre. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait arrêter, enfin parce que en soi c'est pas forcément, tu peux vivre sans, enfin c'est juste que du coup t'as des traits physiques qui sont ambigu entre guillemets, enfin bon, par exemple si j'arrête de prendre mes hormones, bah j'ai genre une moustache et des trucs comme ça, bon c'est pas non plus grave entre guillemets, mais c'est juste que j'ai essayé pendant le confinement et je voyais ma moustache, j'étais là non, ça va pas le faire, je voyais les gens pendant le confinement, ils me regardaient là, j'étais là non, j'aime pas ça. Et du coup j'ai repris les hormones, mais du coup ils sont dangereux, et du coup comment tu fais, enfin.
Et justement, est-ce que tu parles plus avec d'autres personnes intersexes?
Non, en fait j'en connais pas, enfin j'en connais 2-3 avec qui je parlais, je parle plus trop avec eux. J'ai personne à qui en parler. J'ai même des gens qui doutaient du fait qu'ils soient intersexes et qui m'ont soumis dans mes DM, et du coup je leur envoyais, enfin on s'est parlé et tout, donc il y a des gens à qui j'ai parlé, mais c'est pas vraiment un truc clair, enfin chaque personne n'est même pas claire sur sa situation, et du coup c'est difficile d'en parler, et puis en plus personne ne sait, et du coup c'est bizarre, enfin.
Ça veut dire quoi être intersexe?
En gros c'est quand tes caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires, donc tes organes génitaux ou tes hormones ou enfin tout ce qui est un peu comme ça, sont pas strictement mâle ou femelle, enfin ça peut être ambigu, et du coup enfin ce qui fait que ça peut mener à avoir des opérations dès la naissance ou pas forcément, ou genre des lourds traitements hormonaux, et du coup que tes caractéristiques physiques sont ambiguës entre guillemets, quoi.
Et cette variation du développement sexuel, et ben, elle fit pas vraiment avec ce que veut la médecine, qui veut un monde très très binaire.
Ouais, c'est ça. Et du coup, enfin, et en plus de base, c'est que, enfin, c'est aussi moi qui me persuade de ça, mais c'est que, enfin, les médecins, ils connaissent pas. Enfin, pour eux, c'est une maladie, et enfin, ou un défaut, pas forcément une maladie, mais un défaut, et que par exemple ils se disent mais un enfant enfin si il est enfin il va se faire embêter dans la cour de récré s'il est
entre les deux
c'est ça enfin s'il est un peu ambigu et puis même de toute façon enfin quand t'es enfant enfin ça se voit pas trop hein, si t'es une fille ou un garçon enfin à part si enfin littéralement il suffit que t'aies les cheveux longs un garçon a les cheveux longs pour qu'on dise que c'est une fille enfin je veux dire c'est pas surtout dans la cour de récré, tout le monde s'en fout un peu. Ils étaient là, oui, mais ils vont se poser des questions s'ils ont des parties génitales pas comme les autres. Mais en même temps, moi, je me dis, enfin genre, est-ce que vraiment tout le monde, quand t'as 5 ans, tu te montres tes parties génitales entre personnes? Je crois pas, tu vois. Genre, donc,
il faut se poser des questions.
Bah, c'est ça, je suis là, enfin, bon, je crois pas. Et en fait, du coup, oui, ça, je pense qu'ils veulent bien faire, entre guillemets. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils aient derrière leur... Enfin, dans l'idée de faire du mal. Mais après, il y a tellement de... Bon, peut-être pas en France, mais quand même un petit peu. Mais il y a tellement de gens, par exemple, qui parlent aux urologues, qui font quand même beaucoup d'opérations sur les personnes, sur les bébés et les enfants inter. Il y a quand même beaucoup de gens qui leur ont dit que c'était de la torture, que c'était de la mutilation, que tu forçais des enfants à avoir des milliards d'opérations génitales. Enfin, qui n'est pas mon cas, hein, mais... C'est le cas de beaucoup de personnes intersexes, de l'enfance, et du coup, t'apprends, à force de changer, même ça reste inconsciemment, même si t'es très jeune pour t'en souvenir ou quoi, ça reste qu'on te triture et qu'on te change des choses, et qu'on t'habitue, en fait, que depuis que t'es petit, on t'habitue à ce que des adultes aient tous les droits sur ton corps, donc ça, après, du coup, t'es totalement messed up, enfin... Ça vraiment, ça, même pour la santé mentale, c'est chaud parce que du coup, t'es persuadé que les adultes ont tous les droits sur ton corps et ce qui fait que. C'est pour ça que beaucoup d'enfants intersexes ont un historique de violence sexuelle dans leur enfance parce que c'est vraiment un truc. Ça a beaucoup plus d'impact que juste changer ton corps. Déjà, c'est un gros impact, mais ça a aussi un impact mental parce que vraiment, on te dit, mais les adultes, ils ont tous les droits sur ton corps. Enfin, on peut vraiment. Ça t'appartient pas du tout, quoi. Ben, même si c'est inconscient ou quoi, ça reste dans ton cerveau.
Je présume que du coup les médecins font ça, oui, théoriquement pour t'aider à citer dans la société, quoi, qui est binaire.
Et maintenant, je sais qu'il y a certaines facs ou des médecins un peu plus jeunes qui, quand ils apprennent maintenant ce que c'est intersexe, que c'est pas forcément un truc à changer, etc. Maintenant, ça devient plus connu, mais avant, on n'enseignait pas ça en médecine, c'était même pas un sujet. Et maintenant, je pense qu'il y a des médecins un peu plus informés, donc j'ose espérer que ça va s'améliorer, mais je suis pas sûre. Hein, moi, j'ai aucune foi en la médecine, vu que j'ai quitté médecine de toute façon, parce que je trouvais que c'était un milieu. Mais en fait, en voyant les étudiants en médecine, je me suis dit, mais comment on peut faire confiance aux médecins après ? You should learn when to go. You should learn how to say no. En médecine, toi quand tu vas en médecine, des gens qui sont extrêmement misogynes, racistes, homophobes et transphobes, il y a du harcèlement sexuel sur les meufs, mais tout le temps, genre dès la première année, les bizutages, c'est ridicule, ils font des trucs extrêmement crades, sexuels tout le temps, genre ils humilient tout le monde, les femmes médecins, les infirmières et tout ça, elles expliquent à quel point les médecins, c'est du harcèlement sexuel constant. Les études, c'est des gens qui sont extrêmement, tout ce que tu veux, homophobes, transphobes, misogynes, racistes, c'est des gens qui disent des trucs, mais pas forcément les professeurs, mais les élèves, en fait. C'est au début de ma deuxième année, et en fait, j'étais à la bibliothèque, il y avait un mec qui était à côté de moi à la bibliothèque, et son pote est arrivé, il s'était gardé la place, et il lui a dit, ouais, ce matin, t'es quoi en stage et tout, et il lui a dit, ouais, moi, j'étais en gynéco, c'était trop bien, j'ai vu de la teucha et tout, il était là, ouais, grave, BG et tout, et moi, j'étais là, you, mais le mec, il va être gynéco plus tard, et genre, le mec, il parle comme ça, mais j'avais envie de me tuer, j'étais là, mais c'est pas possible, c'est juste la goutte d'eau, c'était pas à cause de ça que j'ai quitté la médecine, mais c'était vraiment la goutte d'eau, genre, littéralement, ils ont insulté tout le monde, c'était vraiment un milieu genre ultra compétitif, mais au-delà de ça, genre c'était là, ah non mais regarde, ce mec il a des chaussures roses et tout, et il s'ensuit des insultes homophobes et des trucs comme ça, c'était vraiment n'importe quoi, genre t'insultais le physique de tout le monde, et genre, quand on entend les trucs en école de commerce qui se passent, qui sont hyper graves, ou en école d'ingé, c'est vraiment pas mieux en médecine, c'est horrible, vraiment c'est horrible ce qui se passe en médecine,
Oui, quelque part, c'est comme le reste de la société où il y a beaucoup, ouais, beaucoup d'hommes, en fait. Ouais, les écoles d'ingé, les écoles de commerce.
C'est ça, ouais, c'est ça, en fait. Et c'est... Enfin, je veux dire, d'évoluer là-dedans quand t'es pas un mec cis blanc, enfin ce qui est la majorité des médecins, hein, mais je veux dire d'évoluer là-dedans c'est dur, hein, enfin c'est, et je me suis dit le métier genre ça me plairait, mais de subir 8 ans de ça, ça vaut pas le coup, je veux pas assez ça pour subir 8 ans, enfin c'est pas possible, c'est pas un truc que je veux subir, quoi. Et du coup bah, j'étais là-bas en fait, non, pas y aller.
Et pour en revenir à tes recherches, quand t'essaies de comprendre tes traitements hormonaux, ouais, et que t'as compris peu à peu ce que c'était qu'être intersexe, mmh, est-ce que ça a changé ton rapport à la médecine ?
Ah oui, clairement. Enfin, maintenant, la médecine, enfin, j'ai aucune confiance en la médecine. Tout ce qu'ils me racontent, je triple-check le truc, parce que c'est vraiment enfin, tout ce qu'on me dit. Et puis, il y a aussi l'histoire de la médecine occidentale qui fait pas du tout confiance aux patients. À la médecine occidentale, enfin, en général, tu vas leur dire que t'as un problème, ils vont dire « Ah non, mais t'es juste stressé. » Enfin, ils font ça tout le temps, les médecins. Dans la médecine occidentale, en gros, t'as une norme. Donc, en gros, pour eux, la norme, c'est pas une norme personnelle, c'est pas propre à chacun, c'est vraiment la généralité. Et tout ce qui sort de la généralité, c'est malade, alors que c'est pas forcément vrai. Enfin, tu peux avoir une norme différente de la norme de quelqu'un d'autre, et du coup, enfin, ce qui est genre malade, enfin, ce qui est de la norme pour toi peut être une maladie pour une autre personne, etc. Enfin, c'est...
La différence n'est pas forcément pathologique.
Non, mais c'est ça. Et en gros, j'ai l'impression que, pour moi, quand tu définis le fait d'être malade, pour moi, c'est vraiment ce qui sort de ta norme à toi, et du coup, ce qui est... tout ce qui peut te faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre, tu vois. Alors que eux, pour eux, être malade, c'est tu sors de la norme générale. Et j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas du tout. Par exemple, quand tu leur dis j'ai un problème, en général, c'est que t'en as un. Tu sais que quand c'est ton corps à toi, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Et tu vas voir le médecin, et la grande majorité du temps, ils vont dire non, mais c'est rien, enfin, je vois tout le monde qui a ça, t'as juste genre mal au crâne, ou t'as juste, t'es juste stressé, ou encore, enfin, pour parler de ça, mais ils sont super grossophobes, donc il suffit que tu sois gros, ils vont dire bah non, t'es juste gros, alors tu vas avoir un gros problème, un problème de santé autre. Et ils sont là, les médecins ils font pas du tout attention à ce que tu dis toi, ils ont pas confiance en toi, ils disent bah non moi je fais médecine donc je connais mieux ton corps que toi, et c'est le truc qui marche pas du tout, et je pense que c'est pour ça que la médecine elle est totalement pourrie dans notre société. Fin...
Ça c'est la conception occidentale de la médecine, ouais. Et pourquoi tu précises occidentale?
Parce que en gros, par exemple la médecine plus orientale etc, en gros ils disaient que ils font justement beaucoup plus attention à ta norme personnelle. C'est une généralité, hein, bien sûr que c'est pas le cas, il y a du cas par cas, mais je veux dire, en gros, c'est beaucoup plus répandu de quand quelqu'un te dit qu'il a un problème, tu vas l'écouter, tu vas dire ah ok, donc ça, ton équilibre est déréglé, et on va essayer de remettre à ton équilibre qui est propre à toi, tu vois.
Quand t'as compris que t'étais intersexe, est-ce que ça a changé ton rapport à ton corps et à ton genre?
C'est vrai que j'ai me posé un peu des questions. Après, mon corps, non, pas du tout, ça a pas changé trop, rien. Mais c'est vrai que du coup, j'étais là, je me demandais pourquoi je rejetais autant la masculinité. C'est parce que, en fait, de base, moi, on me disait toujours, oula, t'es trop masculine, tu marches. On m'a déjà dit plein de fois, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire, on m'a dit plein de fois, tu marches comme un mec. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, vraiment, j'en ai aucune idée. Mais apparemment, je marchais comme un mec, je marchais, je suppose. Et du coup, j'étais toujours là, genre, j'essayais vraiment d'être ultra féminine, d'être vraiment genre. Quand tu prends un médicament, littéralement, qui s'appelle Androcure, c'est-à-dire étymologiquement pour un traitement pour ta masculinité, je pense que, ça fait des choses au cerveau que vraiment c'est mauvais, que c'est un médicament contre ça, et en plus on te dit toujours que c'est pas bien, que t'es trop masculine et tout, bah franchement ça a des effets. Et du coup je me suis dit mais en fait je peux essayer de désapprendre ça et d'essayer de voir comment j'ai envie de me présenter maintenant sans jugement ni rien. Et en fait je me suis rendu compte que oui, il y avait vraiment beaucoup de moments où j'avais besoin de même de m'habiller, ou si je me suis même rasé la tête, etc. Enfin, j'avais besoin d'explorer plusieurs choses et plusieurs expressions de genre différentes. Et maintenant, je me rends compte que vraiment, maintenant, c'est juste ça dépend des jours. Genre, je me force pas du tout à me féminiser. C'est juste, il y a des moments, il y a des jours oui, il y a des jours non. Mon principal problème, c'est mes cheveux. À chaque fois, il y a aussi des jours où j'ai pas envie d'être féminine et que j'ai mes cheveux, ça m'insupporte. Genre vraiment, c'est bête, c'est juste des cheveux, ils sont même pas longs. Mais je suis là, non mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai envie de les raser, mais je sais que genre, les jours où j'ai envie d'être féminine, d'avoir la tête rasée, ça, j'arrive pas. Et je suis là, mais non, mais ça va pas du tout. Et genre, c'est stupide, mais vraiment, mes cheveux, c'est mon principal problème. Je sais que c'est vraiment pas intéressant, mais vraiment, je sais pas. J'essaye vraiment de faire au mieux pour pouvoir jongler entre les deux pour l'instant. Mais sinon, ça me saoulait de pas savoir comment j'aurais été sans tous les traitements. Mais sinon, enfin, ça m'a pas trop changé mon rapport à mon corps, en tout cas.
Ta puberté, elle a été différente dans quelle mesure ?
Pas forcément été différente, c'est juste que c'était un peu messed up. Ça me posait beaucoup de problèmes. Quand tu sais, j'avais plus des hémorragies, je me faisais tout le temps, et puis c'était hyper chaotique. Normalement, quand t'as tes règles, c'est une fois par mois et c'est comme ça, et pas bien. Mais moi, c'était pas du tout ça, c'était n'importe quoi. Des fois, ça durait 6 mois, des fois, c'était genre une fois par an, et des fois, c'était n'importe quoi. Et en plus, c'était vraiment pas bien. Puis après, en plus, je commençais à avoir une moustache en même temps, j'étais là, mais c'est pas normal. Et ça me saoulait, parce qu'en plus, j'étais épuisée tout le temps. J'étais pas bien du tout. Et c'était épuisant, comme tous les traitements et tous les trucs, rien ne marche. Et
t'as tâtonné dans les dosages hormonaux jusqu'à quel âge à peu près ?
Bah écoute, jusqu'à maintenant.
Oui, tu continues.
Oui, mais c'est vrai que ça s'est stabilisé quand j'étais en médecine, jusqu'à 18 ans, je crois.
Une fois que t'avais ce diagnostic, quelque part, est-ce que ça t'a aussi autorisé à faire d'autres choses ou... Tu parlais tout à l'heure d'explorer davantage tes expressions de genre.
Oui.
Est-ce que dans ta sexualité aussi, ça a eu une influence ?
Alors, non, pas dans ma sexualité, mais dans l'expression de genre, oui. C'était juste que avant je m'empêchais vraiment. Je pense que j'ai toujours voulu faire ça, mais c'est que je m'empêchais vraiment, je me bloquais. Et quand j'étais interne, j'étais là, mais en fait, on m'a empêché de faire plein de trucs. Ça veut dire que, genre, inconsciemment, je me suis empêché plein de trucs. Et du coup, j'ai essayé de désapprendre tout ça et de vraiment faire ce que je voulais, mais en même temps, c'est arrivé en même temps que tout, en même temps que je quitte médecine et tout ça, et du coup, genre, c'était vraiment un moment où je voulais vraiment essayer de comprendre tout ce que moi je voulais et pas ce que les autres voulaient, et du coup, je pense que ça arrivait en même temps, un peu en même temps que ça. Et puis même, c'est bizarre, c'est difficile de se sentir légitime en étant inter, parce que du coup, chaque expérience est différente, du coup, tu vas forcément te
reconnaître.
C'est ça, te reconnaître dans les expériences de tout le monde. Et en plus, personne ne te l'a dit, donc c'est pas officiel. Et du coup, tu sais jamais si t'es un... C'est horrible à dire, mais c'était un vrai inter ou c'était juste genre, autre chose. Et après, j'ai rencontré il y a un an, une personne qui avait vraiment la même expérience que moi et qui se disait inter et qui avait exactement les mêmes soucis que moi avec les hormones, qui a pris les mêmes médicaments. Et j'étais là, ça m'a... Encore une fois, je me suis sentie plus légitime. Et du coup, c'est difficile, mais moi j'ai dit, je suis pas forcément out, mais je sais pas si c'est j'ai pas honte ou quoi, mais c'est juste que, comment tu vas expliquer ça à tes parents ou des trucs comme ça, ils vont dire quoi, ils vont dire, tu dis n'importe quoi, tu veux faire ton intéressant, des trucs, t'as juste des médicaments, enfin, tu vois, c'est juste que j'ai pas envie de devoir expliquer, qu'on me dise que non, c'est n'importe quoi, et que j'imagine des trucs, et que j'ai trop regardé Twitter. En soi, c'est pas vraiment une histoire d'être out, je veux dire, quand je le dis sur les réseaux et tout, ça me dérange pas, et j'ai envie de le dire pour que justement, trouver d'autres personnes comme moi, mais c'est juste, à la famille, c'est compliqué, parce que c'est des gens qui sont pas du tout dans cette mentalité-là, qui sont quand même dans la mentalité, la médecine, en plus j'ai plein de médecins dans ma famille. C'est vrai que c'est fatigant que tout le monde dise que c'est pas un vrai truc, que c'est juste...
Oui, peut-être que tu voudrais le dire comme une réponse, et en fait, ça soulèverait davantage de questions qu'autre
chose. Oui, c'est ça, j'ai pas envie de... c'est trop fatigant. T'as pas des questions de gens qui te croient pas, qui te... C'est lourd un peu.
Et se justifier de son existence.
Oui, c'est ça, c'est super lourd.
Tout est arrivé en même temps pour toi, à peu près, une fois que t'as quitté médecine. Mm-hmm. Ça a été quoi, ce grand bouleversement ? Comment est-ce que tu l'as vécu ?
J'étais super euphorique, je pense. J'étais là, ouais, mais c'est trop bien. Et j'ai rencontré plein de gens et je suis rentrée dans la communauté. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai rencontré plein de personnes queer. Et du coup, tous mes potes, c'était des personnes queer. Je suis rentrée directement... avant, je connaissais pas grand monde.
Tu les as rencontrés où ?
Quand j'ai eu 18 ans, donc après médecine, j'étais là, il faut que je sorte en soirée. Maintenant, j'ai l'âge. Wow, c'est ouf. Alors, je sais que littéralement, personne... Enfin, tout le monde y va avant 18 ans, mais moi, j'aimais bien faire comme il fallait. Tout. Et du coup, j'étais là, oui, et du coup, j'ai demandé à une de mes potes qui est queer aussi, et qui, j'étais là, ouais, ça serait cool. Et puis, c'est con parce que, je me persuadais moi-même, j'ai dit en regardant toutes les vidéos sur les personnes LGBT ever de YouTube, et en voulant absolument être dans une soirée queer, j'étais là, non, mais pas moi par contre. Je veux juste y aller parce que, c'est mieux, mais c'est pas moi et tout. N'importe quoi. Et bref, et du coup, je suis allée en soirée queer quand j'ai eu 18 ans, dès que, vraiment une semaine après la fin de mes partiels de médecine. Et j'ai vu qu'il y avait des dragues en gros. Et j'étais là, mais c'est ouf parce que moi, je connais plein de dragues dans internet et tout, mais je savais pas qu'il y en avait en France, nanana et tout. Et j'étais là, ouah, c'est trop bien. Et du coup, je voulais en revoir, de ouf. Je voulais trop, aller revoir des drag shows et des vrais trucs comme on voit sur l'ordinateur et tout, et, mais en fait en vrai, waouh. Et du coup j'ai commencé à sortir pas mal donc en show drag, c'était vraiment dans des... il y en avait deux hein, quand c'était pas il y avait pas vraiment beaucoup, j'y allais et je voyais, et donc en fait, c'était que avec des personnes queer. Du coup j'ai commencé à être pote avec quelques personnes queer, et du coup enfin je suis... et c'est... j'ai jamais arrêté, enfin c'est encore mes potes maintenant, et voilà. Et du coup je suis jamais ever sortie dans une boîte hétéro, ça m'angoisse d'ailleurs.
Tu rates rien.
Non, je rate rien, je pense vraiment que je rate rien. Mais voilà, et du coup je faisais sortir, et quand j'ai arrêté mes scènes, j'ai rien fait pendant un an, j'ai vraiment genre fait du drag, rencontré des gens, et je suis allée en soirée queer. Voilà, pendant un an.
T'as fait une année sabbatique ?
Ben moi c'était pas censé être une année sabbatique, c'est juste que j'ai arrêté vers novembre médecine, et que j'avais postulé à mon truc, mais c'était embrouillé dans l'administration française, parce que la fac française, bon voilà. Et du coup bah, ils m'ont pas inscrit au deuxième semestre, et du coup bah, j'avais rien, et du coup j'ai juste attendu le début de l'année d'après. Et vraiment, c'était pas censé être une année sabbatique, mais du coup j'ai rien fait.
Et quand tu voyais ces dragues, est-ce que ça t'a donné envie ? Enfin, qu'est-ce que t'as ressenti ?
Bah en fait c'est tout bête hein, mais comme je connais le drag depuis hyper longtemps, et je regardais des films avec des drags, et puis je connaissais Drag Race mais depuis 2012, enfin depuis il y a longtemps, et j'étais là waouh, ouais, mais c'est trop bien parce que c'est en vrai, et en fait c'était tout ce qui était comforting pour moi, parce que comme je disais j'étais pas hyper heureuse avant, enfin j'avais besoin à chaque fois de m'évader un peu, et du coup ça faisait un peu partie des choses qui me changeaient les idées, tu vois, de regarder des trucs drag sur internet et tout. Mais quand j'ai vu que c'était en vrai et que c'était genre juste devant moi et que je pouvais les côtoyer tout le temps et tout, j'étais là mais attends, mais c'est trop bien, je peux vraiment rester avec elle tout le temps. Et j'ai commencé, et je voulais pas forcément faire de drag, enfin je voulais juste être dans cette communauté en gros, enfin juste aller les voir et être au drag show et côtoyer les gens qui aiment bien le drag aussi, et je trouvais ça super réconfortant, mais je savais pas pourquoi, vraiment j'étais juste là genre c'est trop bien, et ça me fait vraiment sentir bien à propos de moi, mais sinon enfin je savais pas pourquoi. Et après, de commencer à faire du drag, ça arrivait un peu tout seul, mais de base, moi, je suis pas rentrée en communauté drag parce que j'avais absolument envie de faire du drag, et puis de toute façon, il n'y avait pas vraiment de meufs qui faisaient du drag, donc c'était même pas une question. Enfin, j'ai juste arrivé et j'étais là, waouh, c'est trop bien, ça me fait vraiment sentir bien, et j'ai juste jamais arrêté de traîner avec ces personnes.
Comment est-ce que tu as créé ton personnage, Thomas Finblaze ?
En fait, c'était bizarre parce que, comme je disais, avant j'avais zéro personnalité. Enfin, ou alors je pensais que j'en avais zéro. Enfin, j'avais rien qui me définissait. Enfin, il n'y avait rien qui disait ah, ça c'est grave Lola. Enfin, c'est vraiment, j'avais rien, zéro. Et du coup, quand j'ai voulu commencer à expérimenter le drag, c'était même pas pour avoir une personnalité. C'était vraiment genre, il y avait des soirées qui s'appelaient les Moda. Et en fait, ça avait un thème à chaque fois. Et j'étais là, je vais grave essayer de faire un look dans ce thème parce que je trouve ça très drôle. Moi, j'ai toujours été quand même très créative quand j'étais petite, en vrai. Enfin, j'étais super manuelle et tout. Et quand j'ai rentré en truc scientifique, j'avais plus le temps et tout, bah, j'en faisais plus du tout. J'avais vraiment besoin d'en faire. Et du coup, j'étais là, c'est trop drôle. Je peux genre explorer un peu des trucs. Et puis, j'étais nulle en maquillage. Enfin, vraiment, moi, je me maquillais jamais, 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 jamais. Et du coup, j'ai commencé à découvrir un peu le maquillage. J'étais là, c'est trop drôle. Et je prenais de la peinture gouache et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je collais des trucs sur ma tête et tout. Et j'étais là, ouais, c'est dans le thème. Et j'avais pas de personnage. Et j'ai rencontré ma mère drag, et tout ce qu'elle faisait, j'étais là, mais c'est ouf. Enfin, j'étais là, mais c'est exactement ce que je veux faire. J'étais juste là, mais genre, ouah, attends, quoi. Ça, c'est parce que je ne connaissais pas ce genre de drag. Et j'étais là, mais c'était trop, 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 trop bien. Et du coup, j'étais là, mais en fait, ça me correspond de fou. Et après, j'arrêtais pas d'imaginer des perfs, mais pas pour moi, parce que moi, genre, je suis hyper simée, je pensais jamais de ma vie que j'allais perf. Et j'étais là, j'aimais trop des perfs du coup, parce que ça m'avait grave donné des idées. Et j'étais là, ouais, je devrais grave donner des idées à ces gens-là et tout, que de perfs et tout, comme ça ils pourraient les faire et tout. Et après, comme je maquillais en même temps, et c'est bête, mais je suis tombée sur les effets spéciaux, genre super, super, enfin par hasard. Et j'en ai fait, et j'ai essayé, donc sous les effets spéciaux, ça permet de faire des prothèses et des effets spéciaux un peu horreur et tout. J'ai commencé à faire ça, mais par hasard, juste parce qu'il y avait genre un challenge de maquillage, je crois, sur Twitter, en mode. Un challenge qui était genre horreur ou un truc, enfin je sais plus trop. Hein. Et j'étais là, mais attends, c'est ouf et ça correspond vraiment à ce que je veux. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas de raison, mais j'étais là, mais ça correspond un peu à ce que je veux véhiculer. Et en plus, au moins, j'étais là, ah ouais, j'ai jamais vu ça. Et du coup, j'étais là, bah, je vais grave continuer. Et j'ai juste continué et je me suis rendu compte à quel point j'aimais bien. En fait, je me suis trouvée en faisant le drag. Et en fait, j'avais vraiment aucune idée de rien, de ce que je voulais faire, de qui j'étais, de rien. Et en commençant à faire du drag, j'ai trouvé genre plein de trucs. Et maintenant, depuis 3 ans je fais du drag, il y a 1000 trucs qui tombent là. Ah, ça fait grave Marfine, ça fait grave là. Et machin. Et avant, j'avais pas ça. Enfin, j'avais rien qui me définissait, quoi.
Mais qu'est-ce qui te ressemble à toi?
À quoi je ressemble? Tout ce qui est un peu horrifique, mais au premier abord qui est mignon. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, imaginons comme dans les films d'horreur où à chaque fois il y a des enfants, ils font pas peur, ou des peu, ils font pas peur, mais ça fait vraiment peur. Enfin voilà. Et du coup, bah, c'est un peu ça mon esthétique, je trouve, enfin ce que j'essaie de véhiculer. Et du coup, toutes mes influences, c'est surtout des films, parce que j'adore le cinéma. C'est une de mes principales passions, c'est le cinéma. Et du coup, tout ce qui est slasher, mes films d'horreur, les méchants dans les comics, les vilains, genre tous les vilains dans Batman, ça c'est genre mon esthétique principale. Tim Burton, tout ce qui est David Lynch et John Waters, des trucs comme ça. Et voilà, tout ce qui fait un peu peur mais qui est mignon en même temps, c'est ça.
Et aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois?
Je sais pas trop. Je suis pas une personne qui s'intéresse beaucoup beaucoup à son image non plus, enfin c'est, j'aime bien m'exprimer, du coup j'essaye au max de faire des choses enfin qui me ressemblent, et j'aime bien que quand je vois dans le miroir ça me ressemble. Et toutes les fois où j'ai, enfin ça m'arrive super souvent de pas avoir l'impression d'être moi quand je me regarde, et ça me fucked up la tête, je suis désolée, mais genre ça m'embrouille le cerveau. Mais du coup genre quand je me regarde, j'essaye au max que ça me ressemble. Et les jours où j'y arrive pas, parce que des fois ça arrive, hein, y a des jours où ta tête elle est bizarre, enfin ça arrive, genre, franchement, et ben ça me perturbe et je suis là, mais ça va pas du tout. Et j'essaye, du coup, c'est pour ça que j'essaye toujours d'avoir d'avoir des tenues le plus poussées possible, toujours pour être sûre que ça me ressemble et que les gens, ils me regardent, ils sont là, ah oui, donc ça c'est vraiment Morphine, ou ça c'est vraiment Lola, genre j'ai pas envie de se faire quelqu'un. Et puis il y a plein de gens, des fois quand je fais des looks pas habituels, je trouve ça marrant parce que j'aime bien tester plein de trucs, mais du coup il y a plein de gens qui répondent, on dirait pas toi, ah vraiment c'est trop bizarre, c'est pas toi, et ça me perturbe et je supporte pas qu'on me dise ça. Et pourtant c'est pas méchant, c'est vraiment, c'est bien, c'est cool, c'est à dire que t'as fait une vraie transformation et que c'est marrant et que t'as vraiment joué le jeu du maquillage jusqu'au bout et tout, mais moi quand on me dit que genre je me ressemble pas, ah ça me perturbe trop, je déteste ça, genre vraiment quand on me dit que je me ressemble pas et que genre, et je suis là mais comment ça je me ressemble pas, mais c'est moi, donc comment ça je me ressemble pas, c'est pas possible vu que c'est moi, après je m'embrouille. Enfin, en plus je suis pas neurotypique, et du coup genre, enfin moi quand on me dit des trucs pas logiques, je suis perturbée de fou, du coup voilà.
Et en même temps t'es une très jeune drague, donc ouais. C'est normal que t'explores et que tu tâtonnes et tout, donc ouais. c'est génial en fait que tu te ressembles pas aussi.
Oui, oui, c'est trop bien. Moi justement, enfin genre j'aime bien justement que ça change et que c'est pas habituel pour moi, mais juste la formulation de dire que ça me ressemble pas et que on dirait pas toi, et je suis là mais c'est moi, qu'est-ce que tu racontes?
Mais bon, qui voilà. Suis
non, mais c'est ça, ça me perturbe trop.
Mais ton univers n'est pas arrêté en fait.
Oui, c'est ça, ça c'est cool, mais après je me dis que c'est parce que enfin comme tout le monde, hein, personne n'est arrêté, mais genre c'est vrai que j'ai vraiment encore beaucoup de choses à apprendre sur moi, enfin j'ai commencé hyper tard à apprendre sur moi, j'ai l'impression. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça que je suis aussi versatile dans le drag et dans les trucs comme ça, parce que j'essaye vraiment de toucher à tout et de découvrir tout. C'est comme si vraiment j'avais genre 5 ans et je découvre les trucs. Enfin, je découvre tout et je suis là, waouh, ouais, c'est trop bien. Et du coup, je suis hyper curieuse et enthousiaste de tout maintenant. Alors qu'avant, j'étais blasée. Mais genre, enfin, je suis toujours un peu blasée des fois, hein, quand ça me saoule. Mais là, vraiment, je suis super enthousiaste de tout et super curieuse de tout. Et j'aime trop apprendre et poser des questions à plein de gens, surtout les gens qui étaient avant moi. Parce que, genre, pour moi, la transmission, c'est méga important. Et du coup, quand je suis arrivée dans le milieu drag, j'aime trop. Enfin, j'aimais trop de poser des questions aux gens qui étaient avant moi et regarder un peu les vidéos. J'adore, par exemple, regarder les stories que je prenais quand c'était en 2016 ou des trucs comme ça. Enfin, les vidéos que je prenais, regarder comment c'était avant. Et, enfin, avant 2016, c'est pas il y a pas longtemps, mais je veux dire. Même ça a quand même évolué en 4 ans. Et même voir des vidéos, des documentaires sur ça et tout. Vraiment, tout ce qui se passait avant et comment c'est maintenant et tous les trucs comme ça, ça m'intéresse trop. Enfin, je trouve que le milieu drag, ça me permet vraiment de découvrir plein de choses et d'être vraiment enthousiaste sur tout. Et ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, I guess.
Morphine polymorphe.
Aïe, aïe, aïe.
Et justement, tu disais qu'être une femme en drag, c'est rare. Comment est-ce que tu l'as vécu, ton entrée dans le drag? Comment elle a été perçue?
Alors, je pense que c'est plus vraiment rare maintenant. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était rare. Et ben quand j'ai commencé, c'était très facile, honnêtement. Vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, les gens, ils n'étaient pas là. Oh, wow, il y en a vraiment trop. Et en plus, c'était comme je dis, il y avait une sorte de nouvelle génération drag. Et du coup, il n'y avait pas encore eu le temps d'avoir une tradition. qui s'était installée. Du coup, c'était pas comme si je cassais la tradition, mais qu'il n'y en avait pas vraiment. Et du coup, bah, les gens, ils étaient là, bah, c'est cool, enfin, tu fais ton truc. Enfin, en plus, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de l'horreur ou du SFX, c'est surtout ça aussi. C'est que les gens, ils étaient plus là, assez bizarre, c'est la drague qui fait des yeux qui tombent plutôt que c'est la drague qui est une meuf. Enfin, les gens, ils se posaient pas trop la question. Et puis, j'étais très. Enfin, j'étais, enfin, les gens, ils me respectaient et moi, je les respectais. Et c'est vrai que voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis rentrée dans le milieu drague de façon vraiment très, très respectueuse. Genre, j'étais. En plus, je suis timide de base, donc j'étais vraiment là. J'essayais de faire tout bien et de vraiment de déranger personne. En plus, quand t'es une meuf, on t'apprend vraiment qu'il faut pas déranger, qu'il faut pas trop parler, qu'il faut pas faire trop de vagues et tout. Du coup, moi, j'étais vraiment là, j'arrivais, j'étais là. Si je te gêne, je pars, hein, t'inquiète, y'a pas de soucis. C'était pas mon milieu de base, et en plus, j'avais 18 ans. Enfin, c'est pas que. J'avais pas la science infuse ou quoi, donc j'avais vraiment besoin d'apprendre des choses. Et je pense que c'est pour ça que quand t'arrives dans un milieu et que tu essaies de respecter l'histoire de trucs, et je pense que les gens, ils ont compris ça. Et c'est plus tard, quand il y a eu Drag Race sur Netflix et que c'était devenu un peu mainstream, que là, les gens, ils m'ont dit mais enfin, c'est pas normal, il n'y a pas ça dans Drag Race. Pourquoi enfin, c'est devenu super hostile, alors que de base, moi, j'avais pas de soucis, et je pense que pas beaucoup de gens avaient des soucis avec moi. Et du coup, comme on... Enfin, après, on me mettait beaucoup de pression pour représenter toutes les meufs, mais ça, c'était depuis le début. Enfin, c'était vraiment... et toutes les filles qui venaient, qui disaient « Ah oui, tu m'as inspirée à faire du drag », ou genre, tous les gens qui disaient « Ah ouais, j'aimerais trop, mais je sais pas », et que moi, du coup, j'avais la responsabilité de tout le monde, et puis j'avais la responsabilité d'avoir un avis... Et c'était moi qui faisais des rentes dans les stories et que les gens ils les repartageaient. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas moi qui repartageais les trucs, c'était vraiment moi qui écrivais et les autres gens ils repartageaient et ça les dédouanait un peu aussi. Enfin, c'était moi qui me prenais un peu tout. Et puis même j'ai rencontré des gens il y a pas si longtemps, ils me disaient mais j'ai hyper peur de toi. Enfin, avant de te rencontrer, parce que quand on me rencontre, bon, ça va, je suis pas très peur. Mais l'image, apparemment, parce que j'avais pas compris ça, mais apparemment, quand l'image que je renvoyais, c'était vraiment. Une meuf énervée qui est tout le temps en train de se plaindre des injustices qui se passent et d'être vraiment les gens ils avaient peur de faire des faux pas devant moi, quoi, alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire, hein. Moi c'était vraiment, je voulais juste dire qu'il y avait des soucis, enfin qu'il y a des trucs qui passaient pas, quoi, enfin, et je voulais juste dire ça, et ça, je voulais pas ni être agressive ni être respectueuse ou quoi, vraiment c'était pas ça. Mais c'est vrai que des fois quand il y a des trucs qui sont vraiment énervants, enfin d'avoir un ton énervé c'est pas grave, enfin genre de dire à une meuf, hein, que elle est trop énervée, que si elle parlait plus gentiment le message passerait mieux,
c'est la misogynie de base,
oui,
en fait.
C'est ça, enfin je veux dire le tone policing, enfin franchement, quoi, je veux dire, j'étais là mais on n'en est pas là quand même, mais si. Et du coup apparemment je fais hyper peur et j'ai arrêté de faire des rentes dans mes stories depuis très longtemps, enfin depuis un an ou deux ans. Mais j'ai quand même cette image, les gens ils ont vraiment peur de moi, ils ont vraiment peur de faire une connerie devant moi et que je vais les call out alors que je call out même pas des gens, je ne crois pas vraiment au call out et à cancel des gens. Du coup vraiment genre, en plus j'ai jamais fait des choses visées sur quelqu'un, tu vois, je suis pas peur, je suis pas là, mais regardez cette personne elle est horrible, j'ai toujours dit eh bah, ce comportement me gêne et oppressant et du coup arrêtez de le faire, c'était juste ça mes rentes de base. Et du coup j'ai eu cette réputation et puis du coup les gens, j'avais cette responsabilité de devoir représenter toutes les meufs alors qu'on pense pas du tout pareil. Enfin, moi, maintenant quand il y a une meuf qui poste un truc, tout le monde pense que toutes les autres meufs elles pensent la même chose alors que absolument pas. Enfin je sais que quand une meuf drague poste des trucs sur le drag, moi je pense pas forcément la même chose et tout le monde présume qu'on pense la même chose et j'avais vraiment cette responsabilité de tout bien faire et de tout bien dire et alors que moi je dis toujours vraiment je suis hyper jeune, ce que je dis c'est pas forcément vrai, enfin si vraiment vous pensez que j'ai dit n'importe quoi, vous me le dites et on peut en parler, mais non, les gens, ils questionnaient jamais ce que je disais, jamais, tout ce que je disais c'était genre la bonne parole, et il fallait le retweeter, ça c'est le bon, c'est bien ce qu'elle raconte, elle a raison, et tout ce qui, et du coup j'avais cette responsabilité de faire vraiment tout parfaitement, et de représenter genre toutes les meufs, alors que moi je vais pas représenter toutes les meufs, j'en sais rien ce qu'elles pensent les autres meufs, tu vois. Bon, l'année dernière j'avais vraiment énormément de pression, et j'ai eu un peu, enfin beaucoup... de haters, on va dire. Moi, on me reprochait des trucs que tous les autres mecs faisaient, et j'étais là, mais pourquoi eux, vous les faites pas chier, enfin, vous les embêtez pas du tout, enfin, alors que moi, dès que je faisais une erreur, c'était cancel, de bloquer, machin, et j'étais là, mais en général, c'est des trucs où j'ai même pas fait exprès, ou c'était des malentendus, ou des trucs comme ça, et moi, on me laisse pas le choix, la possibilité de faire un malentendu, ou des trucs comme ça, enfin, c'était... Vraiment, j'ai l'impression que tout ce que je faisais, c'était pire parce que j'étais une meuf et j'étais là, mais vous laissez passer ça à tous vos potes, ils font mille fois pire. Et moi, je fais une erreur, je fais un malentendu et même pas un truc grave, hein, qui n'a influencé la vie de personne, qui a fait du mal à personne. Et moi, à chaque fois, dès que il y avait un mini truc où on reprochait tout, et puis en plus tous les problèmes de toutes les meufs on me les reprochait à moi. c'était trop, enfin. Après il y a eu le confinement et arrêter de faire du drag, c'était bien. J'avais vraiment bien, ça arrivait pile au bon moment. Enfin, je suis désolée de dire ça parce que vraiment ça devait être très difficile pour plein de gens. Moi quand il y a eu le confinement, j'étais vraiment en burn-out, enfin c'était difficile, et du coup c'était un petit souffle du coup.
Est-ce que c'était un burn-out surtout vis-à-vis du drag ou plus largement
dans ta vie? C'était tout, je pense, parce que en fait j'avais du coup je faisais beaucoup de drag. Enfin ça marche, tant mieux, enfin ça marchait bien, ça veut dire, mais et j'avais les cours, enfin j'avais un taf. Et en fait, enfin, ça tient pas. Enfin, en plus, en fac de bio, c'est lourd un peu. Enfin, c'est quand même 40 heures par semaine. Il y a beaucoup de travail à côté, c'est beaucoup de par cœur. En plus, faire du drag plusieurs fois par soir et se revenir chez toi à 1 heure et avoir cours à 8 heures. Et, enfin, c'est... et puis, les soirs où j'avais pas de drag, bah, en fait, je faisais des babysitting ou des cours du soir ou des trucs comme ça pour des enfants et tout. Enfin, j'avais jamais de temps libre. Et en fait, moi, j'avais un emploi du temps, mais... enfin, à l'heure près à chaque fois, enfin ça, là si j'ai 2 heures, donc je vais pouvoir réviser mon contrôle, et puis j'avais pas des bonnes notes en plus, enfin je veux dire, j'avais pas le temps d'apprendre la fac, ça passait en dernier plan, et je faisais tout, et je me disais, ah oui, mais là j'ai plus du tout d'argent, donc il faut que j'accepte ces babysitting là, alors que je suis épuisée, et que le lendemain je compte à 8 heures, bon c'est pas grave, non, et je dormais genre 4h30, je sais pas, moi je dors par 1h30, du coup je comptais, j'étais là, est-ce que j'ai le temps de dormir 1h30, 3h ou 4h30, et j'étais là, bon ok, j'ai le temps de dormir 4h30, c'est bien et tout, et je dormais plus, enfin c'était n'importe quoi.
Tu prenais plus soin de toi?
Ah non, pas du tout. Comme je faisais tellement de drag et tellement de make-up que je me maquillais jamais, par exemple, en dehors du drag, et je voulais même plus m'habiller. Enfin, genre, avant, j'aimais trop m'habiller, avoir un style et tout, mais l'année dernière, enfin, j'arrivais et je mettais genre mon pyjama et mon plus gros sweat, et j'arrivais, je courais partout. Et j'étais, mais genre, j'avais encore de la moitié de mon maquillage de drag de la veille, mais genre à moitié effacé, j'arrivais en cours comme ça, j'étais mais explosée.
Et depuis le déconfinement, est-ce que ça a changé ton rapport au drag et à toi-même et au son?
Bah, en vrai, il n'y a plus vraiment de drag. Enfin, depuis le déconfinement, enfin, à cause du Covid, j'en ai fait un peu. Mais pas vraiment. Et oui, enfin, j'ai l'impression... enfin, c'est bizarre à dire, mais en gros, comme j'ai eu le temps de vraiment y réfléchir, et que j'ai fait le choix de pas reprendre aucune de mes soirées, aucun de mes shows, parce que je trouve ça pas safe. Franchement, c'est pas la peine. Je prends le temps vraiment de réfléchir à ce que je veux faire, et c'est vrai que c'est plus facile. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que ça fait zéro revenu, du coup. Ça, c'est un peu embêtant d'avoir zéro revenu. Mais c'est vrai que j'ai essayé aussi de voir ce qu'on me reprochait pendant tout le confinement, de voir qu'est-ce qui était juste bête, et ce qui était... des vrais reproches, enfin, qui avaient gêné des gens, et j'ai essayé de réfléchir à ça, de parler avec pas mal de gens, et je suis beaucoup plus au clair avec ce que je pense, avec ce que je voulais faire, parce qu'en fait, quand on m'a beaucoup reproché de pourquoi tu fais du drag queen en tant que meuf, t'as aucune revendication, et puis moi je suis super influençable, donc je commençais à le croire, j'étais là, mais oui, pourquoi j'en fais, mais c'est horrible, j'ai aucune revendication, je devrais plus jamais en faire et tout, et enfin, c'est facile hein, de me déstabiliser, j'ai aucune confiance en moi, donc voilà. Là, depuis le confinement, ou même pendant, je suis vraiment là, j'essaye de mettre au clair mes trucs, de garder mes positions, genre non, ça je sais que ça a une valeur, ça ce que je pense, ça c'est bon, et tout ce que je suis à peu près pas sûre, ou que ben, j'ai un peu changé d'opinion, j'essaye d'avoir une opinion vraiment très claire et je peux mieux m'exprimer.
Et justement, ça veut dire quoi le drag pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu revendiques?
Bah bon, alors déjà je fais plus que du drag queen, je fais aussi le drag king, donc ça c'est bien. Mais en gros, j'essaye vraiment de me dire que quand une meuf fait du drag queen, c'est de jouer de toutes les attentes qu'on a sur mon genre et sur mon expression de genre. Parce que vraiment, quand t'es une meuf, on te dit, mais tout le temps, que tu dois être plus comme ci, ou moins comme ça, ou trop comme ci, et que c'est pas comme ça, et qu'on te dit tout le temps, et tout le monde sauf toi, hein, a un avis sur ta personne, alors qu'on n'a rien demandé. Et je pense que vraiment de prendre sa féminité et d'en faire quelque chose, et de vraiment de se l'approprier, c'est vraiment, enfin, je pense que ça a une utilité, enfin, c'est pas juste comme on dit qu'on est des arrivistes et qu'on veut copier les drag queens comme dans RuPaul, c'est pas ça, enfin, je sais que ça m'a stressée quand on me l'a dit, parce que j'étais là, mais attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'étais juste une groupie et machin? Mais non, enfin, ça a une utilité, et puis surtout pour moi, enfin, parce que je me suis posé beaucoup de questions sur mon genre, sur mon expression de genre, et sur tout ça, et qu'on m'a vraiment, enfin, comme je disais, depuis en étant inter et tout, enfin, tout le monde a un droit sur ton corps, sauf toi, et le fait de vraiment faire ce que tu veux, c'est un vrai truc. Par exemple, moi, enfin, performer, ça me stresse au plus haut point, genre, je veux vomir, et je suis... super mal et ça m'angoisse, mais en même temps j'en ai besoin, Et même si c'est pas parfait, enfin même loin d'être parfait, et je suis encore super mal à l'aise, j'en ai vraiment besoin, genre ça, j'ai l'impression d'exprimer quelque chose avec, et je me sens beaucoup mieux dans mon corps, et dans mon genre, et dans tout ça, en le faisant. Et c'est pas que moi, enfin, je sais que, enfin, historiquement, comme on dit, les meufs lesbiennes, etc., enfin, du drag king, et c'est parce que, voilà, parce que, enfin, c'était mal vu d'être une meuf masculine, etc., et je comprends, et de se rapprocher des choses, et ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est pas vrai que d'être une meuf queer qui fait du drag queen, ça n'a aucun intérêt, c'est pas vrai. Moi, je connais aucune meuf 6-7 qui fait du drag queen, ou alors c'est vraiment des meufs qui ont pensé qu'elles étaient 6-7, mais elles le sont plus. Et ça a été... Non mais vraiment, personne n'arrive là par hasard. Pour rentrer dans ce milieu-là, c'est que t'en as besoin, je pense aussi. Et du coup, je connais beaucoup de meufs qui maintenant sont plus cis ou plus hétéro, qui ont commencé. Et ça a vraiment aidé beaucoup de gens d'être une meuf qui fait du drag queen à comprendre. Parce qu'on a tellement d'injonctions quand t'es une meuf qu'en fait, dans le jouet de se les réapproprier, bah au final, ça te rend beaucoup plus libre. Tu te rends compte qu'au final, la société t'a un peu forcé à être hétéro ou t'as forcé à être exactement comme ci ou comme ça. Et du coup, t'étais là, mais en fait, non, pas du tout. Et d'ailleurs, depuis le confinement, le nombre de meufs drag qui viennent me voir en disant oh, bah en fait, je suis plus hétéro et tout, je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir fait un lobby LGBT, je suis trop contente. Tout le monde est là, va dire à Lola, et moi, je suis trop heureuse et tout. Je suis là, waouh, on a trop gagné et tout. Enfin, bref. Maintenant, ils se rendent compte que vraiment, le drag queen, ça aide, mais pour plein de trucs. Enfin, ça aide même à sa relation au corps et tout. Enfin, des gens qui étaient vraiment très stressés, très mal vis-à-vis de leur corps et tout, maintenant, sont beaucoup mieux grâce au drag. Et je pense que d'être une meuf qui doit faire forcément que du drag king, je pense que c'est un peu réducteur. Et vraiment, je minimise pas les bienfaits de faire du drag king et l'importance des drag kings et tout ça, parce que je trouve ça très important et que l'histoire est très importante, etc. Mais je pense que il y a autre chose qui peut être important, même si historiquement voilà, une meuf cis ne fait pas du drag queen.
Mais justement, est-ce que toi qui fais les deux, drag queen et drag king, est-ce que t'as une approche différente?
Bah en fait, je commence le drag king, ça fait un an que je tâtonne un peu dedans, et c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Mais en même temps, je le vois tellement comme me mettre dans l'impôt de quelqu'un qu'au final, moi quand je fais du drag, j'ai l'impression d'être une autre personne, genre c'est juste moi. Et c'est juste moi avec une expression différente en gros, et du coup c'est pas si différent au final, j'ai vraiment l'impression de m'exposer. Enfin, moi je suis très timide et tout ça, et dès que je me maquille, que j'ai l'intention sur moi et que mon expression elle devient un peu plus extravagante, et ben c'est pour moi c'est difficile. Mais après, que ce soit en king ou en queen, en général ça me change pas vraiment, je crois.
Et d'ailleurs, les deux personnages ont le même nom. Enfin,
ah oui, je change pas de nom. Vraiment, je change pas de nom. J'ai pas du tout envie de changer de nom, parce que pour moi, je suis vraiment la même personne. Vraiment, c'est juste moi et qui explore plus ce côté-là aujourd'hui ou plus ce côté-là aujourd'hui, quoi. C'est pas une personne différente du tout. C'est pas un personnage différent. Je le vois même pas comme un personnage. Je joue pas un personnage. Je fais pas du théâtre. Je joue pas du tout un personnage. Je sais que beaucoup de gens le voient comme ça, mais moi, c'est vraiment juste moi avec des habits différents. Puis il y a beaucoup plus de liberté en faisant du drag queen ou king ou voilà, en faisant du drag. Et qui peut beaucoup plus s'exprimer, qui peut beaucoup plus essayer des nouvelles choses et se découvrir que quand je suis pas en drague. Mais après, que ce soit l'un ou l'autre, ça a à peu près le même impact sur moi, je pense.
Et c'est un milieu, le drague à Paris aujourd'hui, qui est encore assez masculin. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a beaucoup de misogynie?
La misogynie, je dis toujours, j'en ai pas vraiment, j'en suis pas plus que hors communauté, bien sûr que non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Enfin, les mecs 6-7, ils sont mille fois pires. Enfin, on est tous d'accord. Enfin, je veux dire, bien sûr. Mais c'est vrai que, moi... en plus, c'est dangereux d'aller voir un mec 6-7 et de lui dire... et lui dire que ça va pas. C'est pas hyper safe non plus. Et puis, j'en côtoie pas. Honnêtement, je côtoie pas de mecs 6-7, à part ma famille. Enfin, moi, c'est pas pire qu'en dehors, mais j'aimerais bien que dans notre communauté, on soit pas aussi oppressant entre nous, quoi. Avant, les drag queens et drag kings, c'était très séparé. Avant, vraiment, je trouvais qu'il y avait vraiment communauté drag king et communauté drag queen, ce qui est encore le cas. Mais j'ai l'impression que maintenant, on pourrait presque parler d'une communauté de drag en général, parce qu'on arrive quand même un peu à se mélanger, et du coup, ça fait il y a quand même beaucoup plus de meufs maintenant, et c'est pour ça que je me sens peut-être un peu mieux aussi.
Et dans le drag ou ailleurs, est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire?
En général, pas trop. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que je suis pas majoritaire, quoi. Après, j'ai une soirée exprès pour... où il y a beaucoup de meufs qui font du drag, etc. Enfin, et du coup, là, oui, j'ai l'impression qu'on est juste entre nous. Mais en même temps, quand je fais quelque chose en non-mixité, entre très gros guillemets, c'est pas vraiment non-mixité, mais j'ai quand même l'impression qu'à partir du moment où t'as besoin de faire la non-mixité, c'est que du coup, t'es minoritaire. Et du coup, au final, je me sens pas forcément majoritaire quand je fais des choses en non-mixité. Même pour tes origines ou pour... de sexualité. Ou... Enfin, je sais pas si ça vient de là, mais c'est que je suis super... Enfin, awkward et timide et tout ça. Et du coup, j'ai souvent l'impression de pas être à ma place, d'être mal à l'aise, d'être genre... j'aime pas être au milieu de juste des gens. Du coup, voilà, mais ça m'aide pas.
Et justement, au niveau de tes origines, t'es assez white passing.
Totalement.
Comment est-ce que tu vis ça?
Moi, je suis totalement white passing. Enfin, dans la rue, moi, je me fais pas discriminer à ma tête, hein, bien sûr. J'ai quand même vécu des discriminations. Enfin, à partir du moment où je pense que tu te sens mal de dire d'où tu viens et que enfin, je me suis fait discriminer pour des écoles, pour des tafs, pour des trucs comme ça, parce que enfin moi j'ai un nom clairement arabe, enfin genre c'est pas, y a pas de question sur ça. C'est pas, voilà, c'est pas un truc que je vis au quotidien, donc je pense pas que je peux non plus, enfin je pense pas pouvoir parler de racisme, hein, honnêtement. Je vois, c'est beaucoup en débat et je prends pas part à ce débat, j'ai pas l'impression d'être légitime à en prendre part, mais que enfin à quel point tu vis du racisme quand t'es white passing, enfin bah pas tant que ça, mais en même temps enfin il y a autre chose que la tête des fois. Et c'est sûr que, bien sûr, du coup, j'en vis mille fois moins. Mais c'est vrai que, enfin, le fait de quand on demande des entretiens, d'où tu viens, et il vient d'où ton nom, ah, mais, genre, bah, t'es là, oh, ouais, et ils sont là, on dirait pas, quand même, hein. Bah, je sais pas, c'est bizarre, et c'est vrai que je me suis fait refuser de très bonnes écoles, ou de bons lycées. Mais bon, voilà, tout le monde dit, ben non, tu peux jamais prouver que c'est à cause de ça, mais bon, enfin... Voilà, hein, je sais pas si tu disais t'inventes et machin, mais non, enfin, il y a des moments où c'était clair. C'est très clair, et puis voilà. Mais du coup, oui, en temps white passing, je peux pas dire que je vis vraiment du racisme, mais clairement, je sais que, enfin voilà, que j'ai pas une religion majoritaire ou des origines forcément majoritaires en France.
Et au niveau de ta sexualité dans la communauté, comment est-ce que tu le vis?
Bah alors moi, je suis, j'ai vraiment des problèmes, je suis pas du tout out, même à moi-même, enfin, c'est bête, hein. Dire j'ai une copine et je suis out à moi-même, enfin, c'est bizarre, hein. Mais c'est juste que c'est difficile d'en parler parce que genre, en fait, depuis que je suis petite, mon père, il me dit toujours, ah, t'es sûrement lesbienne et tout, mais genre, pour aucune raison. Enfin, j'ai une personne dans ma famille qui me ressemble beaucoup sur son parcours, même pas sur en personnalité ou quoi, mais vraiment, et il me disait, ah bah, elle, du coup, elle... elle est mariée, elle a une femme et tout, et du coup, bah, toi aussi, je pense. Et moi, j'étais là, quoi? Mais pas du tout. Mais n'importe quoi, mais pourquoi? Et du coup, j'avais vraiment peur qu'on me découvre. Et pourtant, genre, j'avais vraiment... Moi, pour moi, comme je disais, avoir un crush, c'est pas un vrai truc. Enfin, genre, moi, ça me passait au-dessus de la tête. Moi, j'étais amoureuse de personne. Jamais, ever. Enfin, ça m'intéressait même pas. J'étais là, genre, oh, ouais, mais imaginez, les gens, ils vont croire que je suis lesbienne et tout. Et genre, ça me faisait trop peur. J'étais là, mais quoi? De toute façon, comme moi, ça m'intéressait pas de sortir avec des gens ou quoi, je me disais, bah, tant que je sors avec personne, ça sert à quoi de le dire à quelqu'un, tu vois? Genre, de toute façon, au pire, ça va rien faire. Et maintenant, c'est plus compliqué. De toute façon, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils se posent la question. Mais, je sais pas, pour moi, c'est impossible à dire ou à truc comme ça. Et du coup, même dans ma tête, je pense que tant que je suis out à ma famille, moi, je suis pas out, moi, sur tous les réseaux et à tous mes potes. Je le dis tout le temps, mais je le crois pas moi-même. Et c'est bizarre. Et pourtant, j'ai même une copine, je veux dire, c'est bizarre. Mais dans mon cerveau, il s'est pas encore habitué.
C'est hyper révélateur ce que tu viens de dire, tant que tu l'as pas dit à ta famille, tu l'es pas auprès de toi-même, comme si tu le devais aux autres.
Ah, vraiment, c'est ça. Rationnellement, je sais que c'est pas ça. Et même rationnellement, je sais que que je suis lesbienne et tout ça, mais c'est juste que c'est difficile à dire. Du coup, je le dis vraiment à tous mes potes, sur les réseaux et tout, mais dans ma tête, ça l'est pas. Dans ma tête, je suis là, non, I'm a fraud et tout, genre ça, c'est pas vrai. Et du coup, maintenant, c'est trop marrant parce que genre. Quand je suis à la fac, parce que tous mes potes de la fac ils sont hétéros, mais ils sont pas du tout ni homophobes ni rien du tout, enfin ils sont très cool. Pour m'habituer à chaque fois, dans littéralement une phrase sur deux, je parle de ma meuf. Là, je suis là, ouais, non, ma meuf elle fait ça aussi. Et tu sais, ma meuf. Et genre à chaque fois, et ils s'en foutent, enfin en plus, ça les intéresse même pas.
Et c'est pour toi.
Mais même fois, c'est pour moi vraiment, genre.
T'entraîner.
Ah ouais, vraiment. Et tu vois, puis j'attends de voir les réactions, ils en ont aucune, et du coup, je sais pas si ça me stresse ou pas, je suis là, ils ont aucune réaction. Attendez, quoi? Ils ont entendu. Et du coup, je suis encore en train de répéter ça tout le temps.
Mais quand ton père te dit ça, est-ce que c'est pas pour te rassurer et te dire regarde le terrain est safe? Est-ce que c'est pas lui qui te tend une perche en fait?
Enfin, quand je dis que je suis pas out, c'est parce que moi je vis pas avec mon père, enfin je suis out à mon père, hein. Enfin c'est pas forcément out, enfin, pour lui il pense que, enfin mon père il est persuadé que tout le monde est bi in some way, et du coup c'est cool. Pour lui c'est pas une question. Enfin, genre, pour lui c'est vraiment jamais, ça a jamais été une question, et lui il est très content, enfin en plus tant que t'es pas dans la norme il est content en plus. De côté de ma famille on parle toujours de moi comme est-ce que c'est un problème, et elle est bizarre, et elle fait des machins, et je veux pas rajouter au bizarre, genre j'arrive pas à gérer des trucs comme ça, enfin je veux juste que ce soit simple, c'est. Difficile.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force?
Bah justement, ma communauté, enfin, c'est bizarre de dire ça. Mais vraiment, d'avoir des potes qui me ressemblent et d'être vraiment bien avec des gens avec qui je suis vraiment 100% moi-même. Et c'est un truc que j'avais pas du tout avant, que jusqu'à mon lycée, j'avais pas. Enfin, j'avais des très bons potes, hein, mais j'ai jamais été vraiment 100% moi-même. Et maintenant, je suis simplement avec des gens qui me soutiennent et qui soutiennent ce que je veux faire et tout, et c'est... Et vraiment, enfin, je prends pas ma force de moi-même, je prends vraiment ma force de, bah, du coup, de tous mes potes et de tous mes... enfin, de toute ma communauté, entre guillemets, quoi. D'ailleurs, je pense que je devrais quand même tirer ma force de moi-même à des moments, ça serait bien. Parce que du coup, quand il y a des moments où je vois pas, où je vois personne, bah, je suis toute faible.
C'est marrant, t'es... en fait, t'es une extravertie timide.
Je pense.
Ok, merci beaucoup.
C'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées. Non.
Un podcast natif indépendant créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent. À retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons afin que l'aventure continue.
Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actus.
Merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.